Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et c'est une émission spéciale que nous vous proposons ce matin pour analyser et commenter les résultats des élections législatives en France après la très large victoire du parti d'Emmanuel Macron. Majorité absolue pour La République En Marche et son allié du Modem. 350 députés sur 577. Emmanuel Macron a donc désormais les coudées franches pour mettre en œuvre son programme présidentiel, mais sa majorité est moins écrasante que prévu. On en parlera évidemment dans les prochaines minutes. Loin derrière Les Républicains, le Parti Socialiste, vous le savez, quant à lui pulvérisé, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon fait s'en montrer à l'Assemblée Nationale et le Front National de Marine Le Pen doit se contenter de 8 députés. En tout cas, ce second tour a été marqué par un nouveau record, celui de l'abstention. Elle dépasse les 57%. Vos réactions, vos questions, on a des questions notamment sur la place de l'opposition dans cette nouvelle Assemblée Nationale, sur l'avenir des partis traditionnels, sur les pouvoirs d'Emmanuel Macron jusqu'à 11h. Nous en parlons. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook RFI. Appel sur l'actualité. Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Politologue, président de l'Institut de sondage Pollingvox. Avant de passer au standard et de prendre un premier auditeur, j'aimerais vous entendre justement sur cette très faible participation du jamais vu sous la Ve République. Pourquoi ?
Oui, effectivement, non seulement on a battu au second tour comme au premier les records d'abstention aux élections législatives, mais là, désormais, avec ce second tour, on dépasse les records d'abstention aux élections européennes. Alors, il y a une explication qui est d'avant tout une explication sociologique. Si vous avez de plus en plus l'abstention n'est pas répartie de manière égale à travers la société. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes de milieu modeste, moins vous votez. Et là, surtout, ces catégories-là avaient voté généralement pour des candidats qui ont été battus par Emmanuel Macron. Mmh. Donc il y avait deux motifs de démoralisation, si vous voulez, qui s'additionnaient.
Mais vous parlez des jeunes, c'est quand même paradoxal. On n'a jamais eu un président de la République aussi jeune, on n'a jamais eu autant de candidats à l'Assemblée nationale aussi jeunes, et les jeunes boycottent ou s'abstiennent en tout cas ?
Oui, les hommes ne votent pas pour un candidat homme, les femmes ne votent pas pour un candidat femme, et de la même manière, le fait que Emmanuel Macron soit remarquablement jeune pour un président n'entraîne pas une adhésion particulière. Il faut savoir que à la présidentielle, au premier tour, plus vous étiez âgé et plus vous votiez pour Macron. Macron fait beaucoup, beaucoup mieux parmi les retraités que parmi les 18-24 ans, tout simplement parce que les jeunes de 18 à 35 ans, mettons, sont des catégories qui sont exposées aux dures réalités du marché du travail, qui ont moins de patrimoine que les autres, et ça compte beaucoup plus pour eux que de savoir si le président est plus ou moins jeune.
En tout cas, l'abstention, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie. Quand on regarde un peu ces 15 dernières années, la mobilisation pour les législatives s'effrite de scrutin en scrutin, et de plus en plus de voix disent « c'est dommage parce que les législatives, c'est quand même le scrutin le plus important en France ».
Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est bien les législatives qui fixent en quelque sorte la répartition des partis politiques, qui organisent la vie politique. Et puis, on se rend compte d'ailleurs que quand il y a une assemblée qui est élue face à un président qui est d'un autre bord, bien c'est l'assemblée qui domine. On avait cohabitation. Là, je crois que la faute de tout cela revient à Lionel Jospin, qui avait instauré, et à son gouvernement, qui avait instauré à l'issue d'un référendum d'ailleurs, le quinquennat. Et donc, référendum qui était marqué d'ailleurs par 70% d'abstention à l'époque, et qui fixait le fait que désormais les élections législatives ont lieu directement après l'élection présidentielle. Progressivement, élection après élection, les Français en tirent la conclusion qu'au fond, ce qui est important, c'est l'élection présidentielle, et qu'ensuite, l'élection législative ne fait qu'entériner. Ce qui fait que les différentes formes d'opposition au nouveau président, les camps qui ont été battus à la présidentielle, ont tendance à se démobiliser.
Une première question au standard. Abdou Rahim nous appelle de la région parisienne. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Wan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Donc Emmanuel Macron a obtenu une majorité absolue avec une faible participation. Donc la question de savoir, le président de la République va tenir en compte de cette abstention dans la mise en application de ces réformes ?
C'est vrai qu'on ne peut pas dire, Jérôme Sainte-Marie, qu'il y a une adhésion claire et nette au projet d'Emmanuel Macron. Au regard de l'abstention record, le président va-t-il tenir compte justement de ce désintérêt ou de ce mécontentement d'une grande partie de l'électorat français ?
Non, je ne crois pas du tout. Effectivement, il aurait été... C'est pas un très beau message qui est envoyé pour le nouveau pouvoir que ne pas avoir suscité le moindre élan. On s'est rendu compte qu'il y avait 1 500 000 électeurs en moins pour les députés de La République En Marche, pour les députés macroniens donc, au premier tour des législatives, 1,5 million d'électeurs en moins pour eux par rapport à au nombre d'électeurs qui avaient voté au premier tour pour Emmanuel Macron. Donc l'élection législative s'est faite par non pas par un élan, mais au contraire par une soustraction, c'est-à-dire que l'emportent ceux qui ont le moins perdu d'électeurs, pas ceux qui en ont gagné davantage. Moi je serais à la place du gouvernement et du président de la République, je me féliciterais du fait que les gens aient si peu voté. Ça a permis justement que les catégories populaires s'auto-excluent du vote, ce qui a pénalisé les oppositions les plus radicales au pouvoir, c'est-à-dire le Front National et la France Insoumise. Et donc, effectivement, dans une certaine mesure, vous savez, l'abstention est plutôt un gage de stabilité. On a des pays, d'ailleurs, comme les États-Unis, où l'abstention est généralement majoritaire. Ça n'empêche pas la démocratie américaine de fonctionner. C'est un raisonnement un peu cynique, mais qui tient compte de la réalité.
Ah, effectivement. Autre question liée au taux de participation et au score obtenu hier soir par le parti La République En Marche. Bakary, bonjour.
Allô, bonjour, Ron.
Vous nous appelez d'Abidjan, soyez le bienvenu.
Effectivement. Merci bien, Ron. Moi, ma question, c'est de savoir si, face à la majorité absolue d'Emmanuel Macron législative, nous ne risquons pas d'assister à une gouvernance unilatérale face à une opposition quasi inexistante à l'hémicycle.
On a entendu ces derniers jours, et encore hier soir, dans la bouche de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, disant « Emmanuel Macron a désormais tous les pouvoirs », certains disaient ces derniers jours, pour mobiliser l'électorat, « Attention, la démocratie française est menacée si La République En Marche a une majorité écrasante ». Quelle est votre analyse ?
Oh, je crois que l'auditeur perçoit bien une réalité, c'est-à-dire que désormais la présence de la République et l'Assemblée nationale convergent complètement. Il n'y a aucune possibilité visible qu'il y ait la moindre vote de défiance à l'Assemblée nationale, et donc il n'y a pas d'opposition parlementaire apparente. Alors faut faire attention parce que il y a quand même le Sénat qui existe, et les élections sénatoriales, vous savez que le Sénat est renouvelé par moitié, les élections sénatoriales ont lieu en septembre, et là pour l'instant, comme le mouvement En Marche vient de se créer, il n'y a pas le moindre sénateur En Marche en réalité. Et là il y a effectivement des gros efforts actuellement pour convaincre, notamment via les groupes centristes, de convaincre des sénateurs d'apporter, de s'affilier d'une manière ou d'une autre au mouvement La République En Marche.
Mais quand enfin, Marine Le Pen dit hier soir, le président Macron a les pleins pouvoirs, si ma mémoire est bonne, François Hollande avait davantage de pouvoir qu'Emmanuel Macron il y a 5 ans à la même époque.
Non, parce que là vous avez, autrefois il y avait, quand il était à la gauche et à la droite, vous aviez en face du parti qui était au pouvoir une opposition assez large. Là l'avantage qu'a Emmanuel Macron, c'est que non seulement il est archi-dominant, son parti est archi-dominant à l'Assemblée nationale, mais que il faut rajouter aux élus En Marche les élus socialistes qui ont été élus grâce à l'abstention d'En Marche dans leur circonscription, c'est-à-dire grâce au fait qu'il n'y ait pas eu de candidat en Marche, et donc il y a les socialo-compatibles avec Macron, il y a ce qu'on appelle les Républicain constructif, voilà, et puis il y a le Modem. Donc en fait, non seulement il y a l'énorme groupe En Marche, mais il y a même, ils vont se former sans doute des groupes satellites. Donc là, c'est écrasant. Et vous avez face à En Marche, non pas une opposition, mais quatre oppositions. Le Front National, France Insoumise, les Socialistes et les Républicains, qui ne sont pas du tout d'accord entre elles. Donc c'est effectivement écrasant. Dernière chose, la sociologie d'En Marche fait que, qui est une sociologie très bourgeoise, on a assisté à une forme de réunification de la bourgeoisie de gauche et de droite, ce qui fait que quand vous fréquentez la direction des grandes entreprises, le monde de la justice, certains médias, etc., vous ne tombez plus que sur des macronistes. Ah ouais. Ils sont peut-être pas forcément immensément nombreux dans le pays, mais dans les catégories dominantes, leur domination est écrasante.
Nous décryptons jusqu'à 11h, heure de Paris, la composition de la nouvelle Assemblée nationale française, 33 9 693 693 70. Des questions et ensuite on prendra évidemment quelques commentaires. Une question qui nous vient du Sénégal. Bonjour Arfang.
Bonjour Juan Gomez.
Nous vous écoutons.
Moi, s'il vous plaît, de parler de l'utilité exceptionnelle de cette émission, car qui me rend joyeux et me fait du baume au cœur.
Bon, bah écoutez, tant mieux, et merci de votre fidélité. Nous vous écoutons avec Jérôme Sainte-Marie.
C'est pas de victoire. Est-ce que cela signifie qu'Emmanuel Macron a-t-il les cartes à main pour mettre en place un projet, ou au contraire, il risque-t-il de confronter à des frondeurs?
Des frondeurs. François Hollande les a connus, les frondeurs, durant son quinquennat. Qu'en sera-t-il avec Emmanuel Macron, 350 députés, La République en marche, il va les tenir en ordre, la discipline sera une réalité ou pas?
Oui, première chose, les frondeurs ne sont pas du tout à l'origine de la difficulté de François Hollande. Et d'ailleurs, la défaite majeure du Parti Socialiste au municipal se passe avant qu'il y ait la moindre fronde au Parlement. Les frondeurs n'ont jamais empêché l'adoption d'un quelconque texte de loi. Mais en tout cas, visiblement, ça gêne un peu la communication gouvernementale, et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est très protégé de ce phénomène. Parce que les nouveaux élus, La République En Marche, on a souvent parlé, on s'en est parfois moqué, sont souvent des novices. Mmh. Et des gens qui ne doivent leur élection, et même leur entrée en politique, qu'à Emmanuel Macron. C'est encore renforcé par le fait que...
Donc ils lui sont redevables.
Cette abstention massive fait que l'Assemblée a quand même très peu de légitimité par rapport au président de la République. Et ces gens-là sont totalement redevables. En quelque sorte, c'est comme si le pouvoir exécutif, la présidence, avait nommé le pouvoir législatif. On va avoir donc des personnalités parfois assez fortes parmi ces députés. On a aussi des gens qui ont un métier, etc. par ailleurs. Donc peut-être qu'on aura des comportements un peu erratiques. Mais vu leur mode de désignation, vu leur manque d'expérience politique, vu le fait qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble, ils sont pas issus d'un parti qui préexisterait, je vois très mal comment ils pourraient s'organiser pour un mouvement de fronde, si jamais d'ailleurs ils en avaient l'ambition.
Donc ils seront aux ordres du gouvernement?
Je pense qu'ils seront extraordinairement disciplinés. Oui. Pas forcément toujours totalement compétents au début, mais ça, le métier rentrera peu à peu. Donc on risque d'avoir des choses parfois un peu cocasses, mais on aura une discipline de groupe qui va être extraordinaire. C'est au contraire un système très autoritaire.
Oui, et tous les candidats La République En Marche ont signé un contrat dans lequel ils s'engagent à... mettre en œuvre pour que le projet présidentiel...
Ils ont été littéralement recrutés sur CV, comme vous rentrez dans une entreprise, et donc avec le lien de subordination que vous avez quand vous êtes salarié.
Autre question standard, Dido, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, comment expliquer le succès de tous ces ministres du gouvernement Macron alors que Richard Ferrand et Marielle Desarnais sont entretenus dans les affaires judiciaires?
Alors, les six ministres qui étaient en lice ont tous été élus ou réélus, et pourtant, deux d'entre eux sont empêtrés, effectivement, comme le rappelait notre auditeur, dans des affaires. On a l'impression que ça n'a eu aucun impact sur l'électorat.
Ça n'a pas eu un impact massif, non, visiblement. Alors, c'est pas la première fois, si vous voulez, que des élus, je vais pas citer de nom, hein, parce que du coup, ça pourrait être quasiment diffamatoire, mais que des élus sont confirmés. Alors même que la justice leur reproche des choses. Là, les affaires sont quand même embryonnaires. Faut bien voir que on n'a pas des choses très spectaculaires.
Enfin, c'est embryonnaire. Excusez-moi, les médias, les politologues, les commentateurs ont passé des journées entières à parler de ces affaires ces dernières semaines.
On en a parlé, mais enfin bon, il y a une telle volonté. Vous savez, c'est enfin, les gens se servent des affaires pour exprimer autre chose. Et d'ailleurs, regardez même François Fillon. Il avait perdu, il était parti à 30% intention de vote. Il avait ensuite perdu 5 points liés en fait à ses propositions sur le remboursement des soins et non pas sur les affaires. Ensuite, il passe de 25% intention de vote à 20%. Et une fois qu'il a perdu ces quelques points, toutes les semaines où a duré l'affaire Fillon pendant la campagne, ces 20% demeurent stables. Et d'ailleurs, il fait 20% lors du premier tour des élections législatives. C'est-à-dire que là, vous avez quand même, pour l'essentiel, l'électorat, tant que la personne n'est pas condamnée en tout cas, considère que le choix politique que représente le candidat est plus important que les accusations qui peuvent être faites. D'autant plus que les gens sont impitoyables quand ils constatent un enrichissement privé aux dépens avec de l'argent public. Quand il s'agit de financement de la vie politique, de choses comme ça, ils sont généralement beaucoup plus accommodants.
Les six ministres candidats resteront au gouvernement. Faut-il s'attendre d'ailleurs dans les prochains jours ou les prochaines heures à quelques changements au sein du gouvernement ?
Oui, il y aura peut-être en liaison avec ses affaires des déplacements. Je suis très intéressé par savoir si le garde des Sceaux, François Bayrou, actuellement, restera en position. Parce que c'est pas forcément le vu que tout ce qui traîne, si vous voulez, autour du modem, c'est peut-être pas le fait qu'il soit garde des Sceaux, n'est peut-être pas la situation la plus confortable à gérer pour la communication gouvernementale. Après, je crois qu'il risque d'y avoir une extension de la présence de représentants de la droite au sein du gouvernement. C'est-à-dire que le travail de dépeçage, si j'ose dire, de la droite n'est pas achevé. Il y en a pas mal qui ont été élus, des Républicains qui ont été élus avec l'appui indirect d'En Marche, c'est-à-dire qu'En Marche n'a pas présenté de candidat contre eux. Et il y a, c'est en plus le groupe le plus important, les Républicains, donc c'est là où le nouveau pouvoir a le davantage de profit à diviser. Et je crois qu'on aura l'entrée de nouveaux ministres issus de la droite et en liaison avec cela, une division du groupe Le Républicain entre un groupe de droite pro-Macron et un groupe de droite.
On a justement Macron. Des questions, on les prendra tout à l'heure. Allez, une réaction. David, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe.
Très enthousiaste après la victoire de La République En Marche hier.
Ben, bien sûr, hein, on s'attendait à 400 places, mais on en a eu 350, ce qui est déjà énorme. Mais il y a une chose, tu vois, il y a pas mal de débats, il y a pas mal de choses qui se disent, mais ne nous voilons pas la vérité. Le résultat de ces élections montre à quel point le peuple français a boycotté la politique de gauche et de droite qui nous a été imposée depuis une vingtaine d'années. Donc, qu'il y ait abstention ou pas, le peuple a été allé voter et cette majorité en partie a été accordée par le peuple. Donc moi je suis tout à fait rassuré en sachant que la France est un pays démocratique et que nous avons des contre-pouvoirs, mais Emmanuel Macron a le plein pouvoir, oui, alors donnons-lui la chance, accordons-lui la raison du doute en espérant qu'il va faire mieux, parce que s'il ne fait pas mieux durant ces 5 ans, les 5 prochaines années, ça sera le Front National.
Oui, enfin, les 5 prochaines années, l'état de grâce Jérôme Sainte-Marie sera de très très courte durée pour Emmanuel Macron.
C'est quand même une assez mauvaise nouvelle, cette abstention massive. Je rappelle que on a franchi la barrière des 50% d'abstention dès le premier tour, malgré le fait qu'on avait beaucoup de candidats, et qu'il y a également les votes blancs au second tour. On a à peu près 10% de votes blancs au second tour, donc il faudrait additionner ça à cette abstention de 58%. Donc on peut pas dire qu'il y ait un élan. À partir de là, ça veut pas dire non plus que l'élection, enfin que le gouvernement ou que le président de la République, encore moins d'ailleurs, soit devenu illégitime. Les formes républicaines ont effectivement été respectées. Effectivement, il y a une forte abstention, mais que signifie l'abstention en plus ? Parce que certains vont dire c'est la preuve qu'il n'y a pas d'enthousiasme pour la nouvelle politique, mais d'autres, comme Jean-Pierre Raffarin par exemple, disent que c'est la preuve que même ceux qui s'opposent à Macron n'ont pas la volonté de s'opposer à sa politique, et donc on parle même d'abstention consentement. Tout ça est un peu artificiel, mais en tout cas, ce que j'essaye de dire simplement, c'est que il n'y a pas un message très clair issu de cette abstention. De toute façon, là désormais, il va y avoir un débat parlementaire pour la loi d'habilitation pour les ordonnances sur la réforme du Code du travail, et le plan de réforme prévu par Emmanuel Macron va se mettre en place, et avec une possibilité de riposte démocratique à peu près nulle. La seule question que ça pose, cette situation politique un peu originale que connaît la France, c'est que ça risque de développer les formes d'opposition extra-parlementaire. Les gens se disent, au fond, les 3/4 des Français n'ont pas voté pour Macron au premier tour de la présidentielle. Quelques semaines plus tard, il a le plein pouvoir. Il va mener une politique qui va enthousiasmer certains, mais qui va mécontenter d'autres.
Qu'entendez-vous par extra-parlementaire ? La rue ?
La rue, peut-être l'expression sur les médias, Internet, etc. On a connu des situations comme cela, vous savez, qui entraînent beaucoup de violences politiques. Je pense par exemple à l'Italie, pendant des décennies, la démocratie chrétienne s'est installée, et ça s'est passé autrement.
Reste avec nous, Jérôme Sainte-Marie, nous poursuivons cette émission spéciale juste après le journal dans 10 minutes. Vous continuez évidemment à nous appeler, toutes vos questions nous intéressent, vos réactions également, on en prendra plus que dans la première partie. 33 9 693 693 70, à tout à l'heure.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Bonjour, c'est